Je suis content d'être avec vous ce matin pour ce temps de culte. Alors, peut-être quelques mots. Donc, je suis à Marseille depuis une année comme pasteur dans une église qui appartient à l'Union des Églises Libres de France. Et du coup, je me suis un peu habitué à la chaleur là-bas. Et j'ai pas encore pris l'accent. Je m'étais fixé l'objectif d'arriver à Noël passé et à réussir à faire la prédication avec l'accent marseillais, mais je me suis rendu compte que ce serait pas possible. Et puis, du coup, il aurait été un petit peu pas tout à fait vrai cet accent, parce que ça demande du temps pour le prendre et je sais pas si je le prendrai. Donc voilà, je suis à Marseille et puis ce mois d'août, je vais partir aussi en Nouvelle-Calédonie pour un mois de mission. Et durant ce mois-ci, je vais pouvoir rencontrer différents pasteurs là-bas parce que différentes églises ont à cœur de mettre en place une formation pour les pasteurs, un institut biblique là-bas. Et ce serait pour pouvoir voir comment ils pourraient mettre en place cet institut biblique et puis s'ils auraient aussi envie d'un partenariat ou comment mettre en place un partenariat aussi avec l'Union des Églises Libres de France. Comme ça, ça vous donne quelques idées de là où je suis et de ce que je fais actuellement. Puis si vous voulez lire un petit peu plus, j'ai écrit une lettre de nouvelles qui est aussi affichée derrière sur le panneau d'affichage. Mais je vous propose maintenant de commencer la prédication. Enfin, juste avant, je vous transmets quand même les salutations fraternelles de l'Église évangélique libre de Marseille. Donc, entre églises, même si on est plus ou moins loin, on peut quand même se saluer fraternellement en Christ. Et c'est bon aussi de savoir qu'on n'est pas les seuls le dimanche matin à se retrouver et que sur toute la terre, il y a des milliers, des millions de personnes qui célèbrent le même Seigneur, le même roi, mort pour nous et ressuscité. Je vous propose de lire aujourd'hui un texte dans la première lettre aux Corinthiens. Et pour ça, je vais un peu situer le contexte de cette lettre. Corinthe, c'est une grande ville et l'église de Corinthe est une assez grande église, probablement aussi. En tout cas, il y a toute la diversité qu'on retrouve dans la ville de Corinthe qui est aussi présente dans l'église de Corinthe. Il y a un grand nombre de dons du Saint-Esprit qui sont exercés. Il y a aussi un certain désordre qu'on peut voir quand on lit la lettre, que ce soit lors des cultes ou malheureusement aussi dans la vie quotidienne avec des désordres d'ordre sexuel ou de disputes entre les membres et j'en passe. Voilà. Si vous avez envie d'en savoir un peu plus, vous pouvez lire toute la lettre. Mais en fait, cette église est un peu à l'image de la ville dans laquelle elle se trouve. Et puis, au cœur de la lettre aux Corinthiens, de cette première lettre, entre le chapitre 12 et le chapitre 14, qui parle des différents dons que le Saint-Esprit donne à son église, dans le but de se servir les uns les autres, dans le but de l'utilité commune, il y a le chapitre 13. Ce chapitre 13, il est au cœur de la lettre. C'est un chapitre qui nous parle de l'amour. L'amour qui est mis au centre de cette lettre par l'apôtre Paul, inspiré par le Saint-Esprit pour l'écrire. Et nous allons revenir du coup aussi sur ce cœur qu'il y a dans cette lettre qui est central pour l'apôtre Paul dans le message qu'il transmet à cette église. Mais le texte que nous allons lire pour la prédication sera principalement dans le chapitre 3. Au chapitre 3, on nous parle de personnes, de croyants qui sont spirituels ou qui ne sont pas spirituels, et on peut se demander qu'est-ce que c'est qu'être quelqu'un de spirituel? Qu'est-ce qui compte vraiment aux yeux de Dieu et qu'on peut qualifier du coup de spirituel, c'est-à-dire voulu par le Saint-Esprit, conduit par le Saint-Esprit. Alors je vous propose de lire 1 Corinthiens 3, versets 1 à 15. 1 Corinthiens 3, versets 1 à 15. Puis je lis dans la version Semeur, si jamais. Mais vous pouvez lire dans les versions que vous voulez. En réalité, frères et sœurs, Je n'ai pas pu m'adresser à vous comme à des hommes et des femmes conduits par l'esprit, des êtres humains spirituels. J'ai dû vous parler comme à des hommes et des femmes qui suivent la nature humaine, comme à de petits enfants de la foi au Christ. C'est pourquoi je vous ai donné du lait et non de la nourriture solide, car vous n'auriez pas pu l'assimiler alors. Et même aujourd'hui, vous êtes encore incapable de la supporter, parce que vous suivez toujours la nature humaine. En effet, lorsque vous vous jalousez les uns les autres et que vous vous disputez, ne suivez-vous pas cette nature pécheresse? Ne vous comportez-vous pas d'une manière toute humaine? Lorsque vous dites « Moi, je suis de Paul » ou « Moi, je suis d'Apollos », n'agissez-vous pas comme des êtres humains tout à fait comme les autres? Après tout, que sont Apollos et Paul? Des serviteurs grâce auxquels vous avez été amenés à la foi, chacun d'eux accomplissant la tâche particulière que Dieu lui a confiée. Moi, j'ai planté, Apollos a arrosé, mais c'est Dieu qui a fait croître. Peu importe, en fait, qui plante et qui arrose. Ce qui compte, c'est Dieu qui fait croître. Celui qui plante et celui qui arrose sont égaux, et chacun recevra son propre salaire en fonction du travail accompli. Car nous travaillons ensemble au service de Dieu, et vous, vous êtes le champ qu'il cultive. Ou encore, vous êtes l'édifice qu'il construit. Conformément à la mission que Dieu, dans sa grâce, m'a confiée, j'ai posé chez vous le fondement comme un sage architecte. À présent, quelqu'un d'autre bâtit sur ce fondement. Seulement, que chacun prenne garde à la manière dont il bâtit. Pour ce qui est du fondement, nul ne peut en poser un autre que celui qui est déjà en place, c'est-à-dire Jésus-Christ. Or, on peut bâtir sur ce fondement avec de l'or, de l'argent, des pierres précieuses, ou du bois, du chaume ou du torchis de paille. Mais le jour du jugement montrera clairement la qualité de l'œuvre de chacun et la rendra évidente. En effet, ce jour sera comme un feu qui éprouve l'œuvre de chacun pour en révéler la nature. Si la construction édifiée sur le fondement résiste à l'épreuve, son auteur recevra son salaire. Mais si elle est consumée, il en subira les conséquences. Lui personnellement sera sauvé, mais tout juste comme un homme qui a réussi à échapper à un incendie. Jusqu'ici, la lecture pour aujourd'hui. C'est un texte assez long, avec beaucoup d'éléments différents, et puis des éléments où on peut se poser la question, mais qu'est-ce qu'il veut dire? Alors je vous propose d'abord, dans les premiers versets, des personnes conduites par l'esprit. Dans certaines traductions, vous avez des personnes spirituelles, ou des hommes et des femmes spirituelles. Des personnes qui sont mises en, pas en opposition, mais en, d'une manière... Dans la lettre de Paul, on voit qu'il y a des personnes qui sont conduites par l'esprit, qui sont spirituelles, et puis des personnes qui sont charnelles ou conduites par leur nature livrée à eux-mêmes. Des personnes qui, du coup, se conduisent encore selon le péché qui est présent dans la nature humaine et qui se laissent pas transformer et conduire par l'action du Saint-Esprit. La première chose qu'on aurait comme réflexe, en tout cas moi, c'était ce que je me disais, c'est qu'est-ce que c'est qu'être quelqu'un de spirituel dans la lettre aux Corinthiens? Ah ben ça doit être d'avoir plein de dons du Saint-Esprit, des charismes pour exercer dans l'Église. Et je réalise que les Corinthiens en avaient plein, et Paul leur dit « Vous n'êtes pas spirituel, vous n'êtes pas conduit par l'Esprit. » Alors même qu'ils ont plein de dons du Saint-Esprit qu'ils exercent, un peu en désordre quand même, dans l'Église. Donc être spirituel, être conduit par le Saint-Esprit, c'est quelque chose d'autre. Les dons ont une importance, et on le voit dans le chapitre 12 et le chapitre 14, où l'apôtre Paul leur explique « Les dons du Saint-Esprit sont distribués à chacun de manière différente pour que chacun puisse exercer son propre service dans l'Église pour les autres. » Mais ces dons, en fait, ont du sens quand ils sont exercés pour l'utilité commune, pour le service des autres. si on l'utilise dans l'église pour se mettre en avant ou pour se disputer et dire « moi, je suis meilleur que l'autre », eh bien, au final, les dons n'ont pas leur utilité. Ils ne sont pas utilisés de la bonne manière et ils n'atteignent pas le but pour lequel le Saint-Esprit les donne à l'Église, nous les donne. Et dans ce texte, au chapitre 3 de la première lettre aux Corinthiens, eh bien, qu'est-ce qu'on voit ? On voit l'apôtre Paul qui dit aux Corinthiens « vous n'êtes pas conduits par l'Esprit ». Vous êtes comme des petits-enfants, vous avez la foi, mais en fait, votre attitude, eh bien, elle ne correspond pas à la volonté de Dieu, à la volonté du Saint-Esprit. Pourquoi ? Il le dit au verset 3, « parce que vous suivez toujours votre nature livrée à vous-même, votre attitude conduite par le péché, en quelque sorte. » Et comment ça se manifeste dans l'Église ? Par des disputes. L'un dit « moi, je suis de telle personne, moi, je suis de telle personne ». Et il y a des conflits, des disputes, et les gens ne se tapent peut-être pas dessus, mais en tout cas, avec les mots, on sent qu'il y a suffisamment de tension pour créer de vraies divisions. En effet, lorsque vous vous jalousez les uns les autres et que vous vous disputez, ne suivez-vous pas cette nature pécheresse ? Ne vous comportez pas d'une manière toute humaine ? Il semble que pour l'apôtre Paul, se conduire d'une manière qui plaît au Saint-Esprit, être conduit par l'Esprit, c'est ne pas avoir ce genre de comportement. C'est se laisser transformer par le Saint-Esprit pour que notre caractère ressemble beaucoup plus à celui du Seigneur. C'est renoncer à ses disputes pour quelque chose d'autre. Et quand on pense qu'au cœur de la lettre, la première lettre aux Corinthiens, il y a tout un chapitre qui nous parle de l'amour, on peut se dire, est-ce que la différence qu'il y a entre l'amour et les disputes ne nous montre pas en fait la différence qu'il y a entre une conduite par le Saint-Esprit, une attitude qui correspond à celle du Saint-Esprit et une attitude livrée à nous-mêmes. Est-ce qu'au final, être conduit par le Saint-Esprit, ce n'est pas parce que nous croyons en Dieu, mettre l'amour en premier ? Et une attitude qui serait contraire à la volonté du Saint-Esprit serait, du coup, même si l'on croit, se disputer, se diviser, se jalouser, dire qu'on est meilleur que l'autre, ou se mordre et se manger, pour reprendre une expression qu'on retrouve ailleurs dans la lettre aux Galates, que certains, dans l'Église, malheureusement, on peut aussi retrouver des disputes, des divisions. Mais en même temps, l'amour, c'est pas si évident. C'est pas si évident parce que ça demande de faire des efforts, de ne pas chercher son propre intérêt pour être meilleur que les autres. Chercher à ce que chacun puisse avoir sa place. Quand on est blessé, c'est pas facile non plus. Alors, c'est pas pour autant, quand on est blessé, qu'on va peut-être se mettre à critiquer, à diviser au final les gens les uns avec les autres. Mais c'est vrai qu'aussi l'amour n'est pas facile à vivre quand on a été blessé. Des fois, autant demander pardon que de pardonner, c'est pas évident non plus. Et pourtant, le Seigneur nous appelle à faire preuve d'amour. Alors l'amour, c'est pas non plus faire comme s'il y avait rien, ou ne pas mettre de limites, ou ne pas se protéger. Quelqu'un qui a été blessé et sa vie a été mise en danger, il peut pardonner, mais c'est pas pour autant qu'il va faire comme si rien ne s'était passé et qu'il va pouvoir remettre sa vie en danger. Il faut aussi, dans certains cas, savoir se protéger, bien sûr. Mais le plus souvent, au final, on est blessé dans nos relations et des fois on blesse aussi les autres et on s'en rend pas toujours compte. Et souvent on a besoin en fait de demander pardon et de pardonner. Et c'est pas toujours évident. Et dans ce texte, alors l'apôtre Paul va se concentrer sur lui-même et un autre serviteur de Dieu, Apollos, qui exerce aussi un ministère particulier dans l'église de Corinthe, après que Paul y soit passé. Et puis au final, il dit, l'un a posé les fondements, l'autre a arrosé, mais c'est Dieu qui fait grandir. Et c'est important aussi de se souvenir, face aux difficultés qu'on peut rencontrer, d'aimer, parce que ça reste un défi quotidien, que c'est Dieu aussi qui fait grandir et qui agit dans nos cœurs par son Saint-Esprit pour nous amener toujours plus à la ressemblance du Christ. Entre le verset 5 et le verset 9, l'apôtre Paul se concentre sur des ministères particuliers. Mais au verset 10 et 11, il va revenir en fait à l'Église. Il va comparer l'Église à un bâtiment qui est en construction, ou qui peut-être a été terminé, en tout cas qui se construit. Et il va dire, dans l'Église, eh bien, on peut utiliser des matériaux qui sont précieux, de l'or, des pierres précieuses, de l'argent, ou alors des matériaux qui ne sont pas précieux, et s'il y a le feu, eh bien, ils vont être consumés. Du bois, du chaume, du torchis de paille. Alors, c'est pas très gratifiant, hein, le torchis de paille. On se dit, qui c'est qu'à construire avec du torchis de paille, quand même. Et l'apôtre Paul, en fait, explique le fondement, c'est Jésus-Christ. Mort pour nous, pour que nous puissions être pardonnés, ressuscité, et qui est vainqueur, qui règne dans les cieux, qui va revenir. Et notre espérance est en lui. Et quiconque est dans ce bâtiment, qui est l'Église, qui est l'image de l'Église, est sur ce fondement. Mais il va s'adresser aux Corinthiens en disant, mais que chacun fasse attention à la manière dont il construit l'Église. Parce que chacun d'entre nous, nous faisons partie de l'Église. Nous sommes une pierre, en quelque sorte, de cette Église. Et nous participons à ce que le temple de Dieu, dans lequel Dieu est présent, soit construit. Dieu est présent en nous, Dieu est présent dans l'Église. Il dit, mais avec quoi est-ce que l'on construit nos relations? Avec quoi est-ce que l'on construit, quel est le ciment que l'on met entre ces pierres? Est-ce que l'on construit l'Église avec des choses précieuses ou avec des choses qui n'ont pas de valeur? Et il prend cette image de l'or et du feu. Dans l'Antiquité, pour purifier l'or qu'on extrayait de la terre, des cavernes ou des endroits où on trouvait de l'or, ou de la rivière, on prenait cet or, on le faisait fondre, et du coup, les matières qui n'étaient pas de l'or, soit étaient brûlées, soit se séparaient, et puis ensuite, avec l'or fondu qu'on récupérait, eh bien, on reforgeait quelque chose qui était beaucoup plus pur. On avait brûlé tout ce qui était autre chose que l'or. Et c'était un procédé qu'on utilisait pour que l'or soit davantage pur. J'imagine d'ailleurs qu'aujourd'hui encore, pour avoir un or plus pur, 18 carats, eh bien on utilise en fait aussi un procédé dans lequel on fait fondre l'or, on le purifie avec le feu, ou peut-être des éléments chimiques, mais on purifie aussi l'or pour qu'il soit plus pur. Et l'apôtre Paul utilise cette image. Et il dit, eh bien, ce avec quoi on va construire l'Église, ça va être éprouvé. Ça va être purifié. Et si quelqu'un construit avec quelque chose de précieux, ça va durer. Ça va même durer après le jugement, donc dans l'éternité. Quand l'apôtre Paul est en train de dire, en fait, la manière dont construit l'Église, nos actions, nos relations les uns avec les autres, est-ce qu'on se dispute ou pas? Est-ce qu'on s'encourage les uns les autres dans l'amour ou pas? Il est en train de dire que ce que l'on fait dans l'Église, ça va durer pour l'éternité, si ça a de la valeur. Heureusement, du coup, si ça n'a pas de valeur, ça ne va pas durer dans l'éternité. Ça va, du coup, simplement être purifié. Et il le dit aussi, heureusement pour nous, si on construit avec des choses qui n'ont pas de la valeur aux yeux de Dieu, ce n'est pas pour autant qu'on ne serait pas sauvé. Il le dit, lui, personnellement, sera sauvé, mais tout juste comme quelqu'un qui réussit à échapper à un incendie. Dans d'autres versions, en français, qui traduisent le texte grec, c'est dit comme par le feu. Il est sauvé, mais comme par le feu. Qui reste, c'est ce qui a de la valeur. Alors lui-même est sauvé, mais une fois que le feu est passé, ben il reste plus grand-chose à la maison si elle a été construite en torchis de paille. Mais c'est bon, lui, il est sauvé. Il est sauvé de l'incendie. Le fondement, Christ, c'est lui qui sauve. Mais en même temps, nous sommes appelés à construire l'Église avec quelque chose qui a de la valeur aux yeux de Dieu. Alors, qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce qui a de la valeur aux yeux de Dieu? Est-ce que vous avez une idée? L'amour les uns pour les autres. Le service. Le service. Eh bien, je vous propose de lire justement au chapitre 13, les versets 1 à 3. Parce que, effectivement, vos réponses sont pleines de sens. Chapitre 13, versets 1 à 3 de la première lettre aux Corinthiens. C'est l'apôtre Paul qui fait une supposition et qui donne une idée. En effet, supposons que je parle les langues des hommes et même celles des anges. Si je n'ai pas l'amour, je ne suis rien de plus qu'une trompette claironnante ou une cymbale bruyante. Supposons que j'ai le don de transmettre des messages inspirés, que je comprenne tous les mystères et que je possède toute la connaissance. Supposons même que j'ai, dans toute sa plénitude, la foi qui peut transporter les montagnes. Si je n'ai pas l'amour, je ne suis rien. Si même je sacrifiais tous mes biens et jusqu'à ma vie pour aider les autres, au point de pouvoir m'en vanter. Si je n'ai pas l'amour, cela ne me sert de rien. Le service qu'on peut exercer les uns envers les autres, s'il n'y a pas l'amour, même cela, même un bon service, en fait, est dénué de sens. C'est pas qu'il est mauvais, mais ce qui compte vraiment, en est absent. J'aurais presque envie de dire, vaut mieux tendre un verre d'eau à quelqu'un avec amour plutôt que de faire des grands miracles sans amour. Bien sûr, Dieu peut exercer des miracles au travers de personnes et faire du bien, lui, au travers de ces miracles. Mais pour la personne qui tend un verre d'eau ou qui fait autre chose ou quoi que ce soit, s'il n'y a pas l'amour, ça ne sert pas à grand-chose par rapport à ce qui compte vraiment. Bien sûr, c'est un signe, dans le temps présent, du royaume qui vient, éternel. Un miracle peut montrer, oui, que le Dieu qui vient va restaurer la paix, va restaurer aussi nos corps par la résurrection. Oui, tendre un verre à un enfant ou à quelqu'un qui a soif, c'est aussi un signe du royaume qui vient, parce que tout le monde sera rassasié, n'aura plus soif quand Dieu va instaurer son règne. Ce sera la paix pour tous ceux qui auront cru, et le monde sera restauré après le jugement. Mais pour les croyants, qu'est-ce qui va rester ? C'est pas le verre d'eau en lui-même, mais c'est aussi l'intention. Si c'est fait avec amour, cet amour va durer. Et l'apôtre Paul nous le dit, toujours au chapitre 13, mais au verset 13, il dit, en somme, trois choses demeurent. La foi, l'espérance et l'amour. Mais la plus grande d'entre elles, c'est l'amour. Et on peut se demander pourquoi. Et une des propositions qui est faite, c'est de dire la foi, c'est croire en quelque chose qu'on ne voit pas encore. Une fois que cette chose dans laquelle on croit, on la voit, eh bien, c'est plus de la foi, parce que cette foi est accomplie. L'espérance, on espère dans quelque chose qui n'est pas encore arrivé. Une fois que cette chose est arrivée, cette espérance se transforme en joie, en réalisation. Notre espérance s'est réalisée. Et donc, la foi et l'espérance sont des choses qui vont se réaliser quand Jésus va revenir, quand il va trier, quand il va mettre de l'ordre, quand il va établir la paix, quand tous ceux qui l'ont rejeté devront plier le genou devant lui. Mais l'amour demeure, parce que l'amour que nous avons les uns pour les autres aujourd'hui est semence d'éternité en Christ. Parce que à la foi est ajouté l'amour. Et parce que nous avons foi, Dieu nous appelle à l'amour les uns pour les autres. Lui qui est l'exemple parfait, il est venu, il est descendu sur la terre, il a abandonné sa gloire, nous l'avons chanté, il a donné sa vie. Pas juste pour servir, il a donné sa vie par amour, il nous a servi par amour. Et c'est son exemple aussi que nous sommes appelés à suivre. C'est pas toujours facile, bien sûr. Ce qui est rassurant, c'est qu'au chapitre 13, on peut décrire l'amour et ça nous paraît inatteignable. L'amour est patient, il est plein de bonté, il n'est pas envieux, il ne cherche pas à se faire valoir, il ne s'empare d'orgueil, il ne fait rien d'inconvenant, il ne cherche pas son propre intérêt, il ne s'aigrit pas contre les autres, il ne trame pas le mal, l'injustice l'attriste, la vérité le réjouit. En toute occasion, il pardonne, il fait confiance, il espère, il persévère. L'amour n'aura pas de fin. Mais l'amour parfait qui nous est décrit, c'est d'abord l'amour de Dieu. Nous, on n'est pas capable de l'atteindre par nous-mêmes. La bonne nouvelle, c'est que non seulement Christ est mort et ressuscité, mais que sa grâce n'est pas seulement que nous avons nos péchés qui sont pardonnés, mais qu'il agit en nous par son esprit, qu'il continue de nous transformer jour après jour à l'image, à son image. La bonne nouvelle, c'est pas seulement la mort et la résurrection du Christ, c'est que il continue d'être avec nous et de nous transformer à son image. Christ nous donne son amour par son esprit, continuellement. C'est lui qui nous a aimés le premier. C'est lui qui nous permettra de continuer d'aimer, alors que, oui, on s'en sent bien incapable. Et c'est rassurant. C'est rassurant parce qu'effectivement, avec ma propre force, c'est bien difficile d'aimer et c'est impossible d'aimer d'une manière parfaite. Et durant toute notre vie, on verra encore qu'il y a des imperfections. Mais durant toute notre vie aussi, on peut faire confiance à Dieu pour qu'il fasse diminuer petit à petit ses imperfections. Nous y sommes tous, mais nous sommes aussi chacun à une étape différente. Le Seigneur travaille en nous, chacun à notre rythme. Mais il le fait, et il le fait sûrement. Et c'est un encouragement pour pouvoir faire le prochain pas, continuer tout simplement, et se dire, oui, ben peut-être là, j'ai quelque chose à faire, mais il va m'aider. Peut-être là, il faut que je me réconcilie. Peut-être là, il faut que j'apprenne à pardonner. Peut-être ici, il faut que je demande pardon. Chacun d'entre nous, nous avons nos propres situations. Et le Seigneur nous parle aussi, chacun de manière personnelle. Mais il nous dit aussi à chacun que nous ne sommes pas seuls. C'est par son amour que nous pourrons avancer. Continuer à nous aimer les uns les autres et à renouveler aussi cet amour. Je vous invite à prier. Seigneur, merci. Merci parce que tu nous as aimés en premier. Merci parce que tu veux pas seulement que nous soyons une église pendant un temps sur terre, mais tu veux que nous portions du fruit pour l'éternité. Que l'amour que nous aurons eu les uns pour les autres dure dans l'éternité et serve à ta gloire. Merci Seigneur parce que tu nous donnes une espérance tellement grande et un soutien infaillible. Merci Seigneur parce que face à des choses qui nous semblent tellement grandes et difficiles à atteindre, tu nous rassures en nous disant que ce n'est pas notre propre œuvre, mais la tienne. C'est toi qui nous aides à avancer. Seigneur, tu nous interpelles aussi pour que nous puissions avancer avec ton aide. Tu connais chacun d'entre nous, tu sais aussi si nous avons besoin de pardonner ou de demander pardon, de nous réconcilier et d'apprendre aussi à vivre les uns avec les autres quand ce n'est pas toujours facile. Apprends-nous, aide-nous. Merci parce que toi, tu es fidèle et que bien des fois, tu aurais pu te dire à ces êtres humains, mais tu restes avec nous. Tu es l'exemple parfait d'amour. C'est toi qui es le plus patient. C'est toi qui es le plus disposé à pardonner. C'est toi qui espères tout et qui nous permet aussi d'espérer. Alors nous te prions, Seigneur, pour que par ton esprit, tu agisses dans nos cœurs. Oui, tu fasses de nous encore et encore des personnes qui sont conduites par ton Esprit Saint. Que notre foi soit remplie de ton amour. Que nous puissions aussi alors nous servir les uns les autres avec tous les dons que tu nous donnes. Merci Seigneur parce que tu es fidèle et grand. Amen.